Si je m'endors, tu me réveilles. Jack, tu dors, tu déconnes. Je suis en train de t'interviewer, tu vois, putain.
Salut. Avant de démarrer l'épisode, je tiens à y apporter une intro. J'ai enregistré cette conversation avec mon médecin d'enfance que je voyais à Toulouse et que j'ai pas revu depuis mes 10-12 ans à peu près. Aujourd'hui, je suis super content de faire un train de nuit avec Jacques qui, à 72 ans, vous allez vite le voir, est une légende. Il faut savoir qu'on s'est organisé la veille au soir et je suis venu le voir dans sa maison en Ariège où il pratique toujours à temps partiel en tant que médecin pour faire l'enregistrement. Donc l'épisode est un peu freestyle et il se trouve qu'on a omis de mentionner certains éléments de contexte comme par exemple le fait qu'il est médecin. Vous voilà prévenus, je pense que maintenant vous avez tout ce qu'il vous faut et je vous laisse avec l'épisode. Hey, je suis Alix et voici Train de nuit. Salut Jacques.
Bonjour.
Le format de l'épisode, en général, j'offre une carte postale au début qui est illustrée à l'invité.
Oui.
Et avec un peu l'idée de, à la fin de l'épisode, on voit ce qu'on a envie d'écrire dedans. Du coup, j'ai une carte postale pour toi.
Ah, super.
Qui n'est pas exactement une carte postale, qui est plutôt une sorte de carnet, mais illustré.
Un carnet illustré. Ah, un camping-car, justement. Putain, j'en ai un, moi aussi.
C'est vrai ?
Ah, j'ai un camping-car.
Ça m'étonne
pas. Et j'aime partir en camping-car avec ma douce pour être libre.
Dis-moi, c'est quoi ta méthode en trois étapes pour être riche ?
En fait, je crois que je suis riche parce que je ne dépense pas. En fait, je n'aime pas l'opulence. Depuis que je suis petit, je fais attention tout le temps. Mais quand j'avais 100 francs, j'étais riche. Maintenant, j'ai un million, mais je suis pareil. Mes chaussettes, mon pantalon rapiécé. Je n'ai pas acheté de pantalon depuis des années. Ça, c'est vieux de 10 ans. En fait, je suis riche parce que je ne dépense pas d'argent. Mmh. Et comme j'en ai trop, je le donne à mes enfants. Mais
il y a un...
je n'ai rien fait pour être riche. Je n'ai rien fait.
Mais est-ce qu'il y a un sentiment d'être riche de...
quand
est-ce
je
qu'il y a un
vois...
plaisir ou un...
quand je... Non. Quand je vois les gens dans la vie... Et je me dis, putain, ils ont rien et ils arrivent à vivre. Et nous, on n'avait rien quand on était enfant et on arrivait à vivre. Et aujourd'hui, j'ai tout. C'est-à-dire, j'ai des comptes en banque immenses. Tant et si bien que je ne supporte pas quand mon compte en banque est plein, il faut que je le vide, donc je donne l'argent à mes enfants. Parce que je n'aime pas cette richesse, en fait.
Et toi, du coup, la richesse, ça t'évoque vraiment le financier ? Ou ça peut être... Il y a un sentiment riche,
Non. C'est-à-dire que, regarde, en fait, je peux avoir ce que je veux, j'ai de l'argent. Mais en fait, je m'aperçois que je ne veux rien.
Ouais.
Je ne voulais pas acheter une machine parce que j'en avais une autre ancienne qui marche. L'argent pousse à acheter et moi, et quelque chose d'intérieur me disait, mais t'en as pas besoin, en fait. Mmh. C'est comme ça que j'achète pas d'habits, pas de chaussures, rien. Je veux dire que Mais j'ai que des vieux trucs. Mais je m'y sens bien dedans, tu vois.
Ouais.
Et si j'ai envie de quelque chose, je sais que je peux l'avoir, je peux l'acheter. Et des fois, au dernier moment, je ne l'achète pas parce qu'en fait, c'est la société qui m'a donné envie. Mais moi, je n'en ai pas besoin.
Mmh.
Tu vois, le camping-car, je l'ai acheté sans faire d'emprunt. Mais il est là, il n'est pas sorti depuis 2 mois. J'ai dit, en fait, t'en as pas besoin, je t'aurais pu en louer un, tu vois. Mais le louer, c'était compliqué. Des fois, je crois que je souffre d'avoir et d'en avoir pas besoin. La maison d'à côté où tu es passé, en fait, c'est chez moi. J'habite dans 45 mètres carrés et à côté, à 300 mètres carrés. J'ai habité là-bas, j'ai plus envie parce que j'ai vécu avec une autre femme. Là, j'ai vécu avec personne, c'est nouveau. Ouais. Mais... avant, je gardais cet espace pour les enfants. Mais mes enfants, ben, ils ne venaient pas. Et ça me faisait chier de savoir qu'il y avait des gens qui cherchaient à se loger, qui n'avaient rien. Du coup, j'ai ouvert des colocs pas chers et j'ai invité des garçons et des filles à venir habiter là. Et je me sens plus tranquille. Mmh. Je n'aime pas cette richesse. Mais en le louant, je gagne encore de l'argent. Mais Jacques, t'as qu'à le donner. Non, parce que je m'aperçois qu'en le louant, les gens, ils s'en foutent. Ils payent, ils pensent que... Non, je veux que, quelque part, ils sentent que c'est un échange entre eux. Je ne loue pas cher du tout. Et je paye des impôts. J'en ai à foutre. Mais, en fait, plus je donne, plus je reçois. C'est ouais. Terrible. C'est terrible. Ah non, mais je te promets. Plus je donne, plus je reçois. Mmh. Voilà. Je suis riche parce que je donne, je crois. Mmh. Et je ne dépense pas parce que je n'aime pas, ça ne sert à rien. Voilà. Je vis que d'amour et d'eau fraîche. C'est pour ça que je suis riche.
Ouais.
J'ai jamais prévu d'être riche. J'ai travaillé, j'étais fauché. J'ai fait mes études de médecine en gagnant 150 euros par mois, prof de judo. Je nous mangeais avec, au resto avec mon fils dans les bras parce qu'on était séparés avec sa mère et il avait 2 ans. Avec un ticket, on mangeait à deux. Les gens avaient pitié de moi, ils me filaient un peu plus. J'ai vécu comme ça. Et quand j'ai été médecin, que j'ai eu des sous, ben, je ne savais pas les dépenser. Bon, mais j'achetais ma maison. Après, j'achetais cette maison ici, là, tu vois. J'ai toujours cet argent dans les mains. Je ne peux pas gaspiller. Ouais. Voilà. Donc, je suis riche parce que je ne dépense pas.
Et d'ailleurs, cette maison, du coup, moi, je pense que la dernière fois que je suis venu, je devais avoir 10, 12 ans. On est en Ariège. Et je pense que ça fait des décennies que tu l'as.
Oui. Mais ici, tu n'es jamais venu parce que c'était les écuries. Là, j'avais des chevaux. Là, les anneaux que tu vois, c'est les anneaux des chevaux. J'habite dans les écuries. Mmh. J'ai tout démonté, j'ai gardé le toit qui est d'origine, j'ai reconstruit l'intérieur et j'habite dans les écuries parce que je me suis aperçu, non mais regarde là, tu vois, hein, j'habitais à côté pendant 30 ans. Mais quand tu es à côté, tu es enfermé, c'est grand, mais tu es dans une cour avec une façade et tu ne vois rien du tout. On est con, hein, j'ai fait quoi, 10 mètres, j'habite ici dans les écuries, mais regarde ce qu'on voit là.
Ouais, la vue est incroyable.
Là-bas, tu vois que le mur. Et là, je vois tout. Tu vois comme on est con. On avait tout à côté. Il fallait juste se déplacer et accepter de ne pas être dans le confort des grandes pièces d'à côté. Là, j'ai que tu vois, cette pièce principale et je vis là. Mais ouais. J'ai un point de vue magnifique.
Carrément.
C'est juste que c'est ça, hein. Le bonheur est juste à côté et on ne le voit pas.
Ouais. Et du coup, ça... moi, je pense que depuis aussi longtemps que je te connais, tu avais cette maison ici. Et tu habitais aussi, tu pratiquais à Toulouse.
Alors, j'habitais à Toulouse, c'était ma résidence secondaire.
Ouais.
Le vendredi soir, on rentrait ici, on habitait ici tous les week-ends, toutes les vacances scolaires. C'était notre maison de cœur.
Et qu'est-ce qui fait que tu te sens aussi ancré ici, alors que j'imagine, vu que tu étais déjà un peu un pied à Toulouse, tu aurais pu, si tu avais envie, pivoter pour aller partout ailleurs. Qu'est-ce qui fait que ici, c'est ici?
Ah, mais avec le camping-car, oui, ça y est. Quand j'ai acheté cette maison, du coup, j'ai vendu le camping-car, puisque c'est ça l'inconvénient. Quand tu as une maison, tu y restes. Et en fait, l'inconvénient, c'est qu'en ayant vendu le camping-car, on est resté ici. Mais en restant ici, on a découvert cette région, ce lieu, cette habitation. Quand tu penses que j'ai habité 60 ans à Toulouse, dans une maison très confortable avec un beau jardin, mais enfermé dans une ville, je ne m'étais jamais rendu compte que j'étais enfermé dans la ville. C'est-à-dire que j'étais chez moi, je travaillais chez moi, j'allais au jardin, je me sentais libre. Le soir, quand je sortais, j'allais au cinéma ou au restaurant, il n'y avait pas de contraintes. Et maintenant que j'habite ici, chaque fois que je vais en ville à Toulouse voir mes enfants, il y a les voitures. Je dis, mais comment j'ai fait pour vivre? En fait, j'étais enfermé dans Toulouse et je ne le savais pas. Mmh. Ici, je me sens libre. Je sors, je pisse dehors tous les soirs. C'est une façon de dire, je suis libre, quoi. Hein, voilà. Oui, pisser dehors, c'est devant la porte. Voilà. À Toulouse, il ne faut pas le faire.
Ça, c'est, je pense que c'est un truc, le fait de ne pas pouvoir pisser quand des fois, tu as trop envie de pisser en ville et que c'est pas possible. Je pense que c'est un des trucs où je sens la ville la plus hostile de l'homme envers l'homme, quoi. Je
me dis, c'est incroyable. Oui, mais oui, parce que si tu vas pisser contre un mur, bon, je te cache pas que de temps en temps j'ai envie de pisser. Alors je pisse pas contre un mur, mais je me tourne contre ma bagnole. Des fois, il y a rien. Je pisse comme les chiens. Ça dégouline par terre, c'est pas dangereux. Mais bon, c'est pas bien de faire ça. Oh, c'est pas la pollution. Hein. Quand je pense que les gens, ils foutent plein de saloperies. Mais chez moi, je suis content de pisser dehors. Et j'ai les WC, mais je me sens plus libre de pisser dehors dans mon jardin. Voilà. Si tu peux pisser dehors chez toi, tu es libre.
Bah oui, je pense que c'est un bon début.
Bon, ça suffit pas, mais c'est un bon début.
Et ben on parlait tout à l'heure de tu racontais que quand avant qu'on enregistre que chaque personne qui vient en fait c'est une vraie rencontre et tu t'ouvres un peu ta porte et vois ce qui va être là.
Alors c'est-à-dire que tous les jours depuis 40 ans je rencontre des gens que je ne connais pas ou que je connais d'une certaine façon et chaque fois je m'aperçois que chaque fois c'est une rencontre. C'est-à-dire que les gens m'amènent des choses de leur vie, je les reçois et je m'ouvre à eux et je trouve que mon métier me plaît parce que chaque fois, l'instant est imprévisible. Mmh. Il se passera ce qui se passera. Même si on vient chercher une recette ou n'importe quoi, des fois, il ne se passe pas ça, il se passe autre chose. Les gens viennent pour un truc et d'un seul coup, on se retrouve tout à fait ailleurs. On se rencontre en tant qu'humain et non pas en tant que patient et médecin. Ouais. C'est ça qui me plaît.
Et c'est quoi le... Moi, j'ai l'impression qu'il me manque souvent ce genre d'accompagnement quand je vais voir un médecin. Du coup, pour toi, le maître mot pour laisser exister ça, c'est d'accepter l'imprévisible ?
Ah oui, d'accepter la rencontre. Il va se passer, on ne sait pas quoi. Ouais. Voilà. Et je crois que cette ouverture fait que la maladie, elle passe au second plan. C'est rien du tout. On va faire un truc et c'est fini. Qu'elle soit grave ou une simple grippe, on va se rencontrer. Et je crois que si on se rencontre vraiment, la maladie ne va pas s'installer aussi facilement. Mmh. Je crois que quand on ne se rencontre pas, le médecin met des paravents pour ne pas qu'il y ait d'aggravation, mais ces paravents peuvent être des aliénations. Hein, Je dis toujours ça, tu vois, j'ai pas d'adulte que je soigne depuis l'enfance qui soit asthmatique. Parce que quand l'enfant venait et qu'il avait une crise d'asthme, j'expliquais aux parents que c'était une façon de s'exprimer, il était en difficulté. Je donnais la ventoline pour calmer ça, mais en même temps, je proposais un échange de paroles avec l'enfant ou les parents. Et du coup, quand l'enfant avait besoin de parler, il faisait une crise d'asthme, les parents l'amenaient, je donnais la ventoline, ils l'avaient déjà chez eux, mais c'était l'occasion de parler. Mmh. Et donc, la maladie comme langage, c'est une expression, oui, c'est ça. Je veux dire que quelle que soit la pathologie, grave ou pas grave, accidentelle ou bactérienne, c'est juste une façon de dire quelque chose. Voilà. Il faut prendre les médicaments et se soigner, mais si on ne fait que ça, il y aura d'autres maladies. Alors que si on cherche le sens de cette maladie, pourquoi elle est venue là aujourd'hui, je pense au garçon qui vient me voir parce qu'il a une fracture à la cheville. Je dis, comment il fait ça? Ben, en sortant de chez moi, je ne sais pas, je suis tombé, donc fracture, plâtre, tout ça. Et je lui dis, mais où est-ce que vous alliez de ce patient alerte? Oh, ben, j'avais une réunion au boulot et ils allaient me rentrer dedans, ils voulaient me démissionner. Et en fait, ça m'a arrangé de ne pas y aller. En fait, je lui ai expliqué qu'il s'est fracturé la jambe pour justifier son absence, mais il s'est infligé quand même une violence à lui-même, puisque sa jambe est cassée. C'est pas toujours comme ça, c'est simpliste. C'est une image. C'est une image, donner du sens à la maladie, pour moi, c'est faire de la prévention pour qu'elle ne revienne pas.
Ouais. Ouais. Ça devient d'où ça? Parce que j'ai l'impression que des fois, on cloisonne dans des courants, tu sais, de dire peut-être c'est la médecine orientale ou peut-être c'est d'autres trucs. Et ça peut être difficile des fois d'ouvrir le champ dans le dialogue. Quoi.
De tout temps, depuis... Disons qu'il y a 2000 ans, on n'allait pas chez le médecin, il n'y avait pas. Mais plus il y a deux médecins, plus on y va. Et plus on va chez le médecin, plus on est malade. On a l'impression que la maladie est entretenue par notre système d'organisation de la santé. Maladie, médicament, médicament, maladie, maladie, médicament, et voilà. Et je pense qu'il y a bien des réalités pathologiques qu'il faut soigner, mais quand ça se répète, il faut s'interroger. C'est pas normal qu'un enfant ou un adulte soit malade tout le temps, tu vois. Hein, voilà, il faut s'interroger pourquoi. Voilà. Et quand on s'interroge, c'est sûr, parce que j'ai travaillé comme ça tout le temps, quand on s'interroge et qu'on interroge l'autre, le sens vient, soit il revient plus parce que ça lui convient pas, que je le dérange, soit la maladie se déplace. On met des mots à la place. Voilà. Mot M-O-T-S.
Hein, oui, oui.
Voilà. Voilà. C'est comme ça que j'ai travaillé et ça me va bien. Voilà. Je suis content d'avoir rendu service aux gens.
Et est-ce qu'il y a un... est-ce qu'il y a un changement? Parce que là, aujourd'hui, tu continues à consulter alors que techniquement, personne ne te demande... Tu pourrais le arrêter, disons personne ne te demanderait de...
La première raison, c'est que ma femme étant plus jeune, elle n'est pas à la retraite, elle va bosser encore 15 ans. Donc, je vais encore bosser 15 ans parce que moi, rester tout seul ici à la maison, faire du jardin, de la cuisine, c'est ce que je fais.
Ouais.
Mais j'ai du temps, il n'y a pas assez de médecins. Et après, je te raconterai autre chose.
Je t'en prie.
Et moi, je veux bien rendre service. Je n'ai pas besoin d'argent parce que j'en ai assez pour vivre. Hein, je touche une retraite, mais je me sens utile parce qu'il y a des gens qui viennent me voir. Si un jour il n'y a plus personne, hop, voilà. Il n'y a pas assez de médecins, donc je travaille pour le plaisir. Mais je me suis aperçu qu'il y a 40 ans, 50 ans, j'habitais en Ariège parce que ma première épouse est ariégeoise. Et quand nous avons terminé nos études, je lui disais que j'avais envie... de m'installer médecin au Mas d'Asile, à la campagne. Et elle, elle faisait psycho, et non, moi, je voulais aller à la ville. Et donc, nous sommes allés à la ville, et après, on s'est séparés. Bon, mais c'est pas grave. Mais regarde, 50 ans après, je viens m'installer au Mas d'Asile, là où je voulais aller.
Ouais.
Mais c'est rigolo, ça. J'ai rien calculé. Le mec me dit, je pars à la retraite, Jacques, est-ce que tu veux venir? Je dis, ouais, je vais. En fait, je me suis retrouvé au Mas d'Asile, alors qu'il y a 50 ans, j'aurais voulu venir là et j'ai été d'accord avec mon épouse de l'époque d'aller à la ville pour faire les études de psycho et qu'on fasse son travail. Voilà. Elle n'a pas fait psychologue et moi, je viens m'installer comme médecin au Mas d'Asile. Tu vois, c'est rigolo ça aussi. Ce sont des choses imprévues. Voilà. Mmh. Quand je suis né, je rigole encore, je te raconte l'histoire. Quand je suis né, donc j'étais... L'émigré 1951, donc c'est l'émigration italienne, c'est le début. Ma mère a accouché pour la première fois à la clinique parce qu'avant elle accouchait à la maison. Et la sage-femme, ma mère m'a toujours raconté ça petit. Il est beau, il sera médecin. Tu vois cette correspondance, il est beau, il sera médecin. Tu vois, cette, la fée, tu sais, dans les fées au-dessus du berceau. Oui. J'aurais dû être carreleur, maçon. Peintre, mais certainement pas médecin, fils d'émigré. Aucun de mes frères et sœurs n'est allé au-delà de la troisième. Personne. On est resté certificat du troisième. Je suis le seul à avoir été scolarisé faire médecine. Mais je me souviens très bien que ma mère disait, il est beau, il sera médecin. Bon, je ne suis pas très beau, mais je suis médecin.
Je trouve ça une vraie bonhomie.
Peut-être parce que je suis heureux.
Ouais, mais oui, c'est ça.
Voilà.
Et... Je sais pas, c'est pas ça être beau.
Oui, mais quand on parle d'un bébé qui est beau, c'est pour dire à la mère, oui. Vous pouvez être fier de cet enfant. Voilà, mmh. Hein. Mais quand elle est beau, c'est les beautés cinématographiques. Il est beau, cet acteur. Il est, voilà. Bon. On fait un peu du théâtre quand on est médecin, tu le vois bien. C'est un métier où on est en représentation.
Ouais.
Bon, des fois, je fais le clown, mais des fois, je suis très sérieux quand même.
Je crois que la dernière fois que je suis venu te voir, tu m'as mis un coup de pied au cul quand je suis parti. Bon. Il me semble.
Mais c'était gentil quand même.
Oui, oui. Ah bon. C'était en rigolant. Je ne sais, le... sais plus pourquoi, mais...
Ouais.
Et je me demandais dernièrement... tu vois, avant, je faisais des films et... Et il y a un moment où j'ai vraiment mis ça en suspens. Et quand je faisais des films, déjà, bah, l'exercice de faire des films, ça entretenait une certaine compétence. Et je pense que c'est une des premières choses que j'ai... dans lesquelles je me suis plongé à l'adolescence. Donc, ça a porté aussi des pulsions adolescentes de s'affirmer individuellement, de regarder moi pour qui je suis, quoi. Et de choisir de passer à autre chose, c'était dur de me rendre compte que c'est pas juste j'ai cette compétence et elle reste et je peux aussi faire autre chose. Je sentais que de plus l'entretenir, elle régressait quelque part. Et c'était difficile pour moi d'accepter de changer de peau comme ça, comme un lézard, et d'accepter que de la régression de quelque chose, ouais. C'était pas facile. J'imagine que plus tu vis et plus tu... Ça existe, ce phénomène ?
Oui, ça existe, mais tu vois, il y a un film qui s'appelle Être ou avoir, dans la conjugaison, et Être ou faire. Moi, c'est vrai que j'ai besoin de faire, mais je crois que je fais parce que je suis. Et en fait, il vaut mieux être que faire. On n'existe pas parce qu'on a fait l'Arc de Triomphe ou qu'on a fait la Tour Eiffel.
Ouais.
Eiffel est comme ça, on s'en fout de ça. Je crois que être celui qu'on est me paraît bien plus puissant que d'être celui qui a fait tel truc, tel truc. Mais pourtant, tous les jours, je fais les choses, tu vois. Mais je fais en étant.
Ouais.
Voilà. Et je crois que à 10 ans, à 15 ans, quand on a besoin de faire, c'est pour être. Je crois que on pourrait ne rien faire et être.
Bah, peut-être qu'à 15 ans, on ressent un peu une dette de être, de faire. On n'a peut-être pas l'impression d'avoir évolué dans son être sans que ça soit passé par du faire. Du coup, on fait beaucoup pour rattraper le niveau, peut-être.
C'est comme faire l'amour. C'est pareil. Qu'on commence à 10 ans, à 14 ans, à 15 ans, ou qu'on ne le fasse pas, on existe quand même.
Ouais.
Les bonnes sœurs, les bons prêtres qui ont fait vœu de chasteté, ils existent quand même. Je crois qu'on peut se réaliser en faisant. Moi, je crois que je me réalise en faisant, mais ça n'est valable que si on est, d'abord. Il faut être. Et on est en venant au monde parce que nos parents nous ont voulu ou parce qu'ils nous ont acceptés, ils n'ont pas fait d'IVG. Et quand on est là, nourrissons, souriant. Moi, je vois bien qu'il y a des bébés qui sourient quand on la rencontre et d'autres qui restent enfermés. Voilà, hein. Je crois qu'on peut être à tout âge. On n'est pas... Voilà, c'est ça. Hein. On n'est pas en devenant l'autre. On est à l'instant présent. Enfant, 1 an, 5 ans. Il n'y a pas d'âge d'accomplissement. Un enfant de 5 ans et un homme de 75 ans, c'est pareil.
Ouais.
C'est ils sont. Voilà, hein. Être, c'est pas arriver à 87 ans et mourir. Être, c'est être là, maintenant.
Ouais. Et du coup, tu disais je me réalise en faisant. Ça veut dire quoi, se réaliser ?
Mais, c'est-à-dire que j'exprime qui je suis des fois quand je fais quelque chose. Et ce matin, j'ai massé une dame parce qu'elle ne sentait pas bien. En faisant ce massage, j'existais autour d'elle et elle a senti qu'elle aussi, elle existait. Et si on n'était qu'en parlant, peut-être que parler, c'est faire quelque chose. Si je crois dans le geste, il y a quelque chose qui fait exister. Bon, je ne fais pas de méditation, mais pourtant je médite. Mais je crois que on ne fait pas en méditant, mais on est. Et je crois que j'aimerais des fois ne rien faire. Tiens, par exemple, tiens, moi, je ne lis jamais de roman, de livre, rien du tout. Depuis tout petit, je veux dire que j'ai lu peut-être dans ma vie 20 livres, dans toute ma vie. Je ne lis pas. Je ne peux pas être en lisant. Bon, j'ai des difficultés de lecture, mais maintenant, je ne les ai plus. Mais je reste sur ça. Je ne peux pas être en lisant un roman. Je me fais chier dedans. Tu vois, ça n'existe pas pour moi.
Ouais.
Voilà. Et c'est rigolo parce qu'au cinéma, par contre, j'existe. Je me sens vivant. Tu vois,
ouais.
Et pourtant, c'est un message aussi. Mais dans la lecture, j'y arrive pas, je me fais chier. Alors que dans un film, je rentre dans le film, je suis bon spectateur et j'existe. Voilà. Le cinéma me fait exister en tant que spectateur.
Ouais, ouais. Ah ouais, carrément. Moi aussi, ça a toujours été. Enfin, alors, c'est marrant parce que dernièrement, je le sens moins.
Mais je ne regarde pas n'importe quoi. Hein.
Oui,
je
oui,
ne regarde pas n'importe quoi. Hein. Ouais. Je t'ai coupé, pardon.
Non, je disais que dernièrement, je m'y retrouve beaucoup moins dans le cinéma. Il est clair que moi, ayant mis le frein sur le fait d'être un créateur, ça joue. Mais j'ai l'impression que le cinéma change aussi. Bon, mais en tout cas, ça a toujours été presque thérapeutique pour moi, le cinéma. C'est très, très fort.
C'est consumériste quand même, tu vois. On peut acheter du cinéma, mais dans ces plateformes, tous ces films que tu as... Tu ne pourras jamais... Alors, c'est pareil pour les bouquins. Mais le cinéma, c'est accessible. Tu le filmes, tu l'as, tu le regardes. Et quand je pense que tout l'effort qu'il faut faire pour ce film... Et que c'est galvaudé en devant une pellicule que tu regardes pas, enfin une pellicule,
ouais.
Les images, je regarde pas. C'est terrible un petit peu, parce que le mec qui a fait le film, il s'est donné à fond, et tous les gens qui l'ont fait, tu vois. Et je me dis que c'est dommage de galvauder. C'est comme de changer d'habit tout le temps, d'avoir plein d'habits, d'avoir plein de voitures. Moi, rien du tout. Voilà, le plus simple possible.
Ouais.
Voilà.
Et à quel point est-ce que c'est une démarche de vieux con, ça ? À quel point est-ce que peut-être il y a une autre réalité aujourd'hui qui est valable aussi, tu vois ? Et que c'est des repères qui changent et qu'il y a une vérité aussi, en fait.
Être ou avoir. Être ou avoir. Moi, je préfère être qu'avoir. Et je pourrais avoir plein de choses. Je pourrais avoir une autre maison, une autre voiture, hein, mais ça ne sert à rien.
Ouais.
Et on n'existe pas en ayant. Voilà, c'est ça. Si les riches étaient heureux, on le saurait. Ils ne le sont pas. Mmh. Hein. Certains le sont, et il y a des pauvres qui sont malheureux. Mais je pense que l'argent ne fait pas le bonheur. Ça veut dire que d'avoir ne nous permet pas d'être. Voilà. Mmh. On peut ne pas être du tout et avoir tout. Voilà.
Et quand tu dis que tu n'es pas en lisant, mais tu es plus en regardant des films, tu n'es pas en ayant, mais plus en faisant,
oui.
Comment on trouve dans quoi on est, dans quoi on n'est pas pour toi ? Par où on commence ?
C'est une sensation. C'est une sensation intérieure. C'est-à-dire que des fois, je suis dehors, je regarde le ciel, et il est toujours différent, et je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai la chance de voir ça. Et pourtant, ça se déroule depuis des millions d'années, mais je viens de sentir.
Ouais.
Et comme c'est moi qui le dis, à moi, je sens que c'est de l'existence, voilà. C'est ce que je ressens maintenant, voilà. Il y a des tonnes de bouteilles de vin dans ma cave, je pourrais les boire. Mais non, j'aime pas trop boire, j'aime pas être ivre. Et donc, ça sert à rien. D'avoir tout ça ne sert à rien. C'est ça que j'ai envie de dire, hein.
Du coup, pour toi, c'est forcément de trouver ce truc dans lequel on est. C'est plutôt de l'expérience d'être passé par là et que ça ait marché.
Disons que c'est à vivre. Voilà. Ouais. C'est à vivre. C'est-à-dire que si tu es plus heureux quand tu as changé ton téléphone portable, eh bien, tant mieux pour toi. Moi, j'en ai un vieux parce que je trouve con, il marche. Pourquoi je veux le changer ? C'est débile. Voilà. Ouais. C'est un petit peu ça.
Ouais.
Voilà. Je crois que c'est la sensation qu'on a. Donc, ça peut être qu'individuel.
Ouais.
Pour moi, j'existe pas en achetant, j'existe en vivant. Voilà.
Ouais. Et tu fais quelle distinction entre de pas chercher à être en essayant de devenir l'autre, mais par contre quand même, qu'est-ce que les autres peuvent t'apporter dans le fait de devenir toi ?
Ah mais moi, j'ai besoin de l'autre. Ah oui, j'existe avec toi là, en ce moment je suis vivant.
Ouais.
J'aurais pas cette discussion avec moi-même. Tu me fais exister, ça me fait du bien. Donc j'ai plaisir à être avec toi. Parce que je parle, je m'entends, et ce que je dis là, ça me plaît bien d'être moi, comme ça. Et donc l'autre me fait exister. Quand je suis seul, je ne sais pas méditer dans le sens de la méditation, je peux pas retrouver ça. Mais en fait, je pourrais avoir cette discussion avec moi-même. Je pourrais écrire un livre, mais non, j'y arrive pas, c'est pas là. Mmh. Voilà. Je crois que j'ai besoin de l'autre, mais nous avons besoin de l'autre. Nous existons parce que nous sommes en lien avec l'autre. Exister seul sur une planète, moi, ça ne me sert à rien du tout. Voilà. L'autre me fait vivre, oui. Il me renvoie l'image de moi. Quand tu me regardes, quand tu m'écoutes, j'ai l'impression que tu me vois. Je me vois dans tes yeux et donc je suis content.
Et dans la méditation, c'est quoi qui te correspond pas? C'est la discipline? C'est autre chose?
Bah, d'abord, je ne sais pas ce que c'est. Je déconne, mais je m'aperçois que je fais du tai chi, tu vois, je mets un écran, le mec fait les mouvements, et à un moment donné, il dit que c'est la méditation, donc il ferme ses doigts, il les met comme ça, voilà. Et moi, je pense, et je dis que c'est si ça méditer, mais ça, je peux le faire. Mais je pense qu'il y a quelque chose de l'intériorisation, de l'expression, que je n'ai jamais appris, que je n'ai pas formulé. Et donc, moi, je suis plutôt d'une éducation catholique. Tu vas voir le curé, tu lui dis toutes les conneries que tu as faites. Et bon, il te dit, bon, puisque tu as dit la vérité, hop, c'est fini. Tu n'es plus coupable. Mais j'avais ça comme discours intérieur. C'est être avec soi et témoigner à l'autre ce dont on n'est pas fier, quoi. Hein. Parce que méditer pour se congratuler, bon, c'est bien, mais ce n'est pas tout le but. C'est être en recherche, s'interroger, voir si on a dit des conneries à son mari ou à sa femme ou à ses enfants et se dire, merde, je vais leur parler ce soir, tu vois. Ça me servira ça, c'est que dans le va-et-vient et la rapidité de la vie, on fait des conneries. Moi, je suis triste d'avoir fait des conneries. Mais si quelqu'un vient et qu'il me dit, ah, ce jour-là, tu fais une connerie, je dis, voilà, je ne m'en souviendrai peut-être pas. Mais pardon, parce que voilà, je crois que des fois, on va vite, on néglige l'autre et dans notre négligence, on peut faire du mal. Alors, je ne vais pas faire mea culpa, mea culpa, mea culpa. Mais c'est un petit peu ça. Et j'ai l'impression que méditer, ce serait une façon... Donc, alors, vas-y, voilà. Je médite, mais ce n'est pas méditer. La nuit, je me réveille... J'ai plus sommeil, c'est 3 heures du matin, et je repense des choses. Des fois, je me fais des canaux, j'y tiens à ça à faire. Mais des fois, il y a des choses qui viennent toutes seules. Et je crois que méditer, c'est d'accepter de s'écouter soi-même. Et dans cette acceptation, des fois, écouter qu'on était con, qu'on était salaud, qu'on était méchant, qu'on était tout ça. Et se dire, même, t'es ce mec-là aussi. Et donc, il te faut, voilà. Et quand on est parent, par exemple, de dire à ses enfants, je me suis trompé, là, 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 là. Tu vois, je pense que c'est vraiment important de dire ça à ses enfants, à son père, à sa mère, aussi à ses parents, mais de dire à sa femme, à son mari, à ses amis. Tu vois, voilà, je me suis trompé, j'ai l'impression de tel jour, tel l'autre. Et l'autre te dira, mais non, pas du tout, je n'ai pas senti comme ça. D'accord. Mais moi, j'écoute, pas pour faire mon mea culpa, mais pour dire, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai dit ce jour-là. Mmh. Aujourd'hui, je ne le pense pas et je trouve que je me suis trompé. Et donc, si je t'ai offensé, ben voilà, je te demande pardon parce que je n'y étais pas. Aujourd'hui, je le vois. Et moi, j'ai besoin d'être en accord avec celui que je sens maintenant. Voilà.
Ouais. Ça t'arrive
On a tous fait des conneries. Hein. Voilà. Ouais. Moi, je n'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai dû en faire, je suis sûr. Je ne vais pas être parfait.
Et ça t'arrive régulièrement que ça amène dans l'action à, d'aller parler à quelqu'un?
Non, parce que je dis les choses aujourd'hui. Donc, mais si quelqu'un vient me demander, tiens, tel jour, à telle heure, tu m'as dit ça, j'essaierai de m'en souvenir. Mais en tout cas, si l'autre, ça le gêne, je veux bien revenir là-dessus pour dire les choses. Voilà, avec mon épouse, des fois, je dis, tu sais, j'ai aucun arrière avec toi. Des fois, il y a tel truc qui ne m'a pas plu, tel un peu. Bien, on se le dit. Tu vois ? En fait, si demain matin je meurs, je n'ai pas d'arriéré. C'est-à-dire que l'autre, je ne suis plus là pour parler, mais c'est pareil quand les enfants nous quittent. On donne le carnet de santé, on donne ça, mais on pourrait dire aussi, voilà, je reprends tous les mots violents que je t'ai dit, toutes les méchancetés que je t'ai faites, parce que je les ai faites à ce moment-là, je ne savais pas. Je crois qu'on pourrait faire ça. Et l'enfant, il part, et non pas avec son panier de linge sale, mais avec quelque chose de vide qu'il va compléter, lui, dans sa vie d'homme ou de femme.
Ouais.
Voilà.
Bah, je vois que tu le fais, parce que avant qu'on enregistre, On a parlé de trucs, notamment de mon enfance, et où oui. Je sentais que tu n'étais pas forcément conscient de tout ce qui avait pu se passer. Et tu m'as vraiment dit avec beaucoup d'intention, mais est-ce que tu as des choses que tu aurais envie de me demander aujourd'hui? Et j'ai senti une vraie présence sur le terrain, quoi.
Oui, oui. C'est-à-dire que, je veux dire que, tu vois, les Juifs sont capables d'aller vivre en Allemagne, alors qu'en Allemagne, on leur a fait les pires saloperies. Et voilà, et je crois qu'il y a eu des drames, et il faut les dénoncer, mais on va continuer à vivre. Et moi, je trouve qu'ils sont courageux, tous ces gens-là. Mais c'est pas parce que, si tu veux, on a vécu des choses difficiles, qu'il faut rester dessus. À un moment donné, il faut quitter cette histoire-là très douloureuse et continuer à vivre. Voilà. Et les enfants, si on les libère de nos chaînes, eh bien, c'est plus facile pour eux de vivre. Voilà.
Ouais. Tu as l'air d'avoir beaucoup d'amour propre avec ça, avec le fait d'être faillible. Ça a toujours été le cas ?
Oui, parce que l'homme est faillible. Si tu veux, l'homme est faillible. Et que... C'est important de le dire à l'autre parce que celui qui a été victime de nous peut le porter. Je ne parle que de toutes les victimes parentales, des abus sexuels, des violences qui ont été faites aux personnes et d'être obligé de vivre avec ça. Et je crois qu'à un moment donné, le fait qu'on dise ben, « ça existait hein, », que des entraîneurs sportifs aient abusé des adolescentes. Eh bien, ces adolescentes, pour être des femmes, elles ont besoin de dire que ce qu'elles ont fait, ce n'était pas de leur faute. Et moi, pour moi, dans notre vie, on peut avoir traité son enfant d'imbécile, et il a pris ça, et il vit comme un imbécile. Et je crois qu'un jour, on peut lui dire, voilà, je t'ai dit imbécile, voilà, eh bien, j'étais en colère, mais tu n'es pas un imbécile. Et je crois que de faire ça, l'autre peut continuer autrement. Sinon, ça le plombe et il ne peut rien faire. Voilà. C'est comme le casier judiciaire, au bout de temps, tu l'enlèves. Mais moi, je trouve que c'est dur, quoi. Tu vois, et pourtant, la faute, tu l'as faite. Mais à un moment donné, voilà, je vais payer ma faute et maintenant, je veux arrêter d'être le prisonnier, je veux être le père, je veux être le mari, je veux être le citoyen. J'étais un mauvais citoyen. Mais là, je veux être aujourd'hui cet homme-là et je reconnais ma faute.
Ouais. Et en tant que médecin, est-ce qu'il y a pour toi une chose que, à laquelle les gens pourraient prêter plus attention pour être bien ?
De ne pas venir avec leur corps, mais de venir avec leur être. Oser, tu vois, le problème, c'est qu'on n'apprend pas aux médecins à rencontrer des êtres, mais des corps. Et je crois que la médecine a un progrès à faire, c'est de dire, nous sommes des vivants, et là, l'autre en face n'est pas qu'un corps, tu vois. Alors, il y a des gens spontanément qui sont comme ça. Mais je crois que c'est important, tu vois, parce que la personne qui arrive, bon, on est pressé et tout, mais si tu la prends entière, tu vas réussir à guérir la maladie ou à la soigner. Alors que si tu prends que la partie du corps concernée, ben, tu n'arriveras à rien. Voilà.
Ouais. Et pour toi, il y a une part de... Les gens qui viennent voir le médecin peuvent être partie prenante de cette éducation ?
Oui, moi je le propose. Bonjour à vous, pas à votre corps. Bonjour, c'est ouais. Vous. Voilà. Et pour moi, c'est important de... Tu vois, avec le Covid, on ne touche plus les mains, on ne fait plus rien. Quand je prends la main de quelqu'un, je sais qui est là et pas. Et des fois, je leur dis, écoutez, moi là, c'est moi, c'est Jacques Pallucci. C'est pas que le docteur Pallucci, c'est un être entier. Soyez entier et vous verrez que j'aurai plus d'informations et je pourrai mieux vous soigner que si vous me donnez que votre index ou votre nez ou votre oreille. Voilà. Soyez entier. Ouais. J'essaye de voir s'il y a le sourire de ta maman ou de ton papa et j'arrive pas, c'est toi que je vois.
Okay.
Je vois ni ta mère ni ton père.
Quand j'étais enfant, on me disait toujours mon père, ouais. Le sourire. Et peut-être que il y a des embrayages différents qui sont.
Ouais. Eh bien, tiens, tu sais, demande à ton père de te masser. Figure-toi que mon fils un jour est venu me voir, il avait mal, tu peux me masser ? Et moi, je dis oui, bien sûr. Je l'avais jamais massé. Il s'allonge, je touche. Je ne connaissais pas ce corps. Je le prends dans les bras, tu lui fais des câlins souvent, hein. Mais c'est un homme de 40 ans. Je ne le connais pas. Et bien sûr, je le vois rarement. Il fait sa vie, tu vois. C'était pas mon fils. C'était un homme de 40 ans qui avait mal au dos. Et ça me faisait drôle parce que je pensais que je toucherais mon fils. Mais que dalle. C'était lui, voilà. Ça me fait rigoler. Non, pas facile. C'est pas facile, hein. Oui, moi je les masse, mes enfants, hein. Mais je les masse. Mais c'est drôle parce qu'on est avec son enfant, je suis avec mes trois enfants, mais quand je les touche, tu vois, c'est pas pareil, c'est eux.
Ouais.
Et je n'ai qu'une petite partie de mes enfants. Tout ce qu'ils sont, les parents qu'ils sont, les maris ou les femmes qu'ils sont, je ne les connais pas. Je les vois, mais je ne les connais pas. Mais en le touchant, voilà. Tu demanderas à ton père de te masser. Tiens, papa, tu veux me masser ?
Bah, tu vois, je crois qu'il m'a... Parce que du coup, il s'est installé, il fait des massages de relaxation, pour les gens qui écoutent. Il m'a massé au début où il avait fait ça et où il avait fait le changement d'activité. Et deux, trois fois. Et à chaque fois, moi, c'était pas du tout plaisant pour moi.
Et parce que c'était le masseur.
Ouais. Et du coup, on l'a plus jamais refait. Mais du coup, ça vaut le coup de réessayer.
C'était le masseur. Ouais. Et tu peux pas. Ouais. C'est ton fils, quoi. Tu peux pas. Tous les jours, regarde, tous les jours, voilà, tiens, ce sera une façon de te dire. Tous les jours, le matin, je prépare le petit déjeuner, mon épouse s'allonge là, je lui masse les pieds et les jambes jusqu'aux genoux. Tous les soirs, on se met sur ce canapé, elle me masse les pieds et les jambes jusqu'aux genoux. Tous les jours, ça fait des mois, et c'est notre façon de nous rencontrer, de donner quelque chose à l'autre. Tu vois ? Mais je donne quelque chose de l'ordre de l'amour et il n'y a rien de sexuel. C'est juste, je pourrais te masser à toi, j'aurai de l'amour aussi. Tu vois ? Je ne peux pas masser un corps. Je ne sais pas le faire.
Ouais.
Je suis avec une personne. Et je crois que on est assidus parce que ça nous fait exister. Moi, j'existe en la touchant, et elle me dit que ça lui fait vraiment du bien, tu vois. Mais pas que physiquement,
ouais.
D'être dans une vraie relation, voilà.
Et quand tu masses ton fils, et que du coup, peut-être, il y a une carte de comparaison avec d'autres corps que tu as pu toucher.
Disons que quand, dès que je le touche, il dit « Merde, mais je ne connais pas lui !» Ça me fait drôle, parce que je pensais que je le connaîtrais. Et non, je connais mon fils, mais je ne connais pas son corps d'homme. Ouais. Je le touche pas, je le prends dans les bras, tu vois, je lui gratte le dos, mais je connais pas son corps d'homme. Et je pensais qu'en posant mes mains, j'ai compris de suite que... Mais non, je le connais pas. Et donc, je me suis appliqué à aller à sa rencontre, et après, j'ai pu le masser, il s'est régalé. Mais je pensais que d'être le père, ça me permettrait de suite avec le fils. Eh bien non.
Ouais.
Voilà.
Il y avait un apprivoisement, quoi.
Oui. Ouais. Oui, obligé, parce qu'on ne se connaît pas.
Ouais, ça, je pense que dans ma situation familiale, je pense que je suis assez loin de l'acceptation de ce genre de révélation, quoi.
Ça vaut le coup, tu vois. Dans 30 ans, 40 ans, peut-être, tu seras sur le lit de mort de ton père, tu dis adieu papa, et tu vois, et tu vas le toucher, il sera froid peut-être, et en fait, tu vas oser toucher ton père. Alors que tu n'as jamais osé le faire, tu vois. Touche-le de son vivant. Tiens, papa, je te propose un truc. Tu vas t'allonger, je vais te masser intuitivement. Ne me donne pas des conseils, laisse-moi faire. Et tu vas t'amuser à toucher ton père. Et tu verras, tu ne peux pas masser ton père comme tu masserais moi ou comme on masserait ton copain. Tu vois, c'est pas pareil.
Ouais, c'est marrant, d'ailleurs, récemment, j'ai toujours beaucoup aimé masser. Mais je me suis retrouvé à masser pas mal... et je me suis rendu compte que ça faisait peut-être 10 ans que j'avais pas fait de massage, quoi. En tout cas pas régulièrement. Et en plus, on cherchait vraiment à une approche, comme tu dis, très intuitive, de juste se laisser, de pas chercher à être le faiseur et de juste chercher là où t'es appelé, quoi.
Être ensemble dans le mouvement, oui, bien sûr.
Et c'est marrant parce que ça y a beaucoup de peurs qui pouvaient monter de dire. Par exemple, quand tu te rends compte que tu es en train de masser de manière asymétrique, une zone plus qu'une autre, tu te dis, mais merde, si la personne elle me demande pourquoi, comment je justifie ça, qu'est-ce que je dis ? Et tu as des moments où tu es pleinement dedans et des moments où tu en ressors et tu dis, je peux pas justifier de ce qui vient de se produire, en fait. Et c'était assez, assez fou comme expérience.
Dans ma formation professionnelle d'autonomie, il y avait un exercice, c'est que tu étais allongé sur le dos dévêtu, et tu avais un bandeau, tu ne savais pas qui te touchait. Et on devait tous passer un par l'autre, poser une main, puis l'autre, sur le dos de la personne, sans bouger. Et l'autre devait dire qui sentait, ce qu'il sentait. Il ne voyait pas qui c'était. C'est terrible parce que on entendait des choses, nous, de l'extérieur, la parole et la personne. Et des fois, c'était discordant, tu vois. C'est-à-dire des gens pas très costauds, mais être très présents. Et presque, là, je me sens opprimé, oppressé par la personne. Alors que tu croyais que c'est un mec très gentil, en fait, il est oppressif quand il touche. Ou alors, je me sens bien en sécurité avec cette personne. Elle est, au contraire, elle paraît... comment dire, lourdeau, tu vois, et en fait, et sécurisant. Et en fait, c'est très intéressant. Il y avait un autre jeu où tu es allongé, c'est pour l'école infirmière, pour la formation, tu es allongé sur le dos avec un bandeau, et la personne te prenait la main, te touchait le bras, et te reposait la main, et tu devais dire par qui tu voulais te soigner, à partir de toucher. Mmh. Et les gens étaient décontenancés parce que tu ne peux pas tricher. Quand tu prends la main de quelqu'un, bonjour, comme ça, tu ne sais pas faire autrement, parce que si ta main est molle, on touche comme on est. On ne peut pas tricher.
Ouais.
Et c'est très intéressant de faire ça, parce que tu peux t'apercevoir que l'autre n'est pas du tout celui que tu penses dans le regard. Je te touche la main, voilà. Le fait que tu sois là, pour moi, c'est important. Que tu n'essayes pas de me tenir, tu vois, ou d'être tout mou et d'être absent, si tu veux. Ouais. De dire, regarde, je suis là pour toi, viens. Viens à ma rencontre. Voilà. Et de dire à l'autre, viens, ça vaut le coup, tu vois. Voilà. Et je crois que c'est ce qu'on ne nous apprend pas dans notre métier, c'est que tu touches les choses, tu touches les parties génitales, et en fait, tu t'exclus pour ne pas être malsain, mais tu n'es pas non plus attentionné, l'autre c'est son corps intime, et toutes ces choses-là, ça se parle. Je rigole parce que ma compagne, je me suis toujours appliqué à faire mon métier dans ma vie, notamment dans l'examen des parties génitales, et mon épouse me dit, mais moi, regarde, chaque fois que je femme, madame, est-ce que vous voulez que j'examine ? Moi je dis, ben oui, elle vient pour ça. Mais non, mais est-ce que vous voulez ? Oui, mais oui, je veux bien que vous m'examiniez. Bon, ouvrez vos chambres, voilà, madame, je vais vous examiner. Ah oui, mais tu... Non, mais si elle n'est pas prête, est-ce que je peux le faire ?
Ouais.
Non, pas encore, je ne suis pas prête. Ah, d'accord. Parce que sinon, tu te amuses, alors tu fais tout ça comme dans les caliques. Ça ne marche pas. La personne... Et mon épouse me disait, j'ai appris ça à 70 ans, que... Est-ce que je peux vous examiner ?
Mmh.
Elle est venue exprès pour ça. Non ?
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un rythme. Voilà. Moi, je me rappelle, je m'étais fêlé la rotule en tombant... Quand j'avais 10-12 ans, et donc j'avais la jambe à moitié pliée, et ils voulaient me la tendre pour me mettre une attelle. Et en fait, je leur disais, mais ça me fait mal. Et ils me l'ont forcé tendu, et ils sont allés à mon goût juste 10 secondes avant. Ils sont allés 10 secondes trop vite, quoi, pour me tendre la jambe. Et c'est horrible à vivre. Eh ben,
parce qu'on ne nous l'a pas pris, ça. Ouais. Oui, il faut tendre la jambe pour que ce soit bien fait.
Ouais.
Mais tu touches la jambe de l'autre.
Et moi, je pense que j'aurais pu le faire à mon rythme, tu vois.
Non, mais moi, je touche la jambe, et je dis, vas-y, là, tu peux la tendre. Et en fait, et il se passe rien. C'est ça, tu vois ce que je veux dire bien. Tu vois, moi je touche la jambe. Maintenant, si tu veux, tu peux l'attendre. L'autre l'attend. Elle n'est pas tendue. Est-ce que tu peux l'attendre un peu plus ? Tu vois ? Alors que si tu prends et tu tends, l'autre, il abandonne son corps. Il n'y est pas. Et du coup, sans me faire exprès, tu peux lui faire mal.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment, tu abandonnes ton corps, quoi.
Et ah ben les gens ils viennent, ils abandonnent le corps, ils sortent de leur corps et on examine le corps. Et après quand ils repartent, ils reprennent leur corps et ils en vont. Ça paraît un peu débile. Oui mais Jacques c'est normal. Mais non, mais un mec qui vient pour que je fasse un toucher rectal, bien sûr que c'est pas agréable. Mais moi, je vais le toucher d'abord à lui, avec ma main, son corps pour dire voilà, c'est moi, c'est Jacques Pallucci, je suis le médecin. Je fais un toucher rectal, c'est pas grave, je fais doucement. Je mets mon doigt devant son anus, je rentre pas. Je fais doucement, est-ce que je peux venir? Oui. Voilà. Et ça ne devient plus un examen. Pourtant, c'est intime, un toucher rectal. Mais, si tu veux, l'autre est présent. Alors que si tu mets sur le dos, qui ferme les yeux et qui serre ses poings, tu prends ton doigt, tu l'enfonces, aïe, ça fait mal. Et oui, parce que, en fait, l'autre n'a donné que son corps. Et une partie intime, c'est vachement difficile.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Si on enregistre ça. Oui, mais c'est la vérité. C'est comme ouais. ça. Les hommes ne viennent pas faire un toucher rectal parce qu'ils ont peur.
Ouais.
Alors que les femmes viennent tous les ans faire un examen gynéco. Les mecs, ils ne veulent pas.
Mmh.
Voilà. Bon. C'est comme ça.
Oui, c'est vrai que le ratio, il est criant.
Mmh. De l'ordre de la soumission des femmes aux hommes, mais des hommes aux hommes, non.
Mmh.
Non, je veux pas. On le fait pas. Voilà. On finit par la médecine alors.
À part si tu veux.
Non.
Switcher sur autre chose.
Non, ça c'est bien. C'est bien parce que j'ai l'impression de dire qui je suis.
Ouais.
Voilà.
Moi aussi. Tu m'as l'air suffisamment affalé dans le canapé pour être qui tu es.
Ah oui là, je suis bien là.
Et du coup, la tradition à la fin de l'épisode, c'est d'écrire quelque chose dans le carnet, en l'occurrence.
Oui.
Est-ce que dans ce qu'on a dit, il y a quelque chose que tu as envie de... Soit...
Ouais. J'écrirai, j'aime l'homme que je suis. Quoi.
Ouais. Ok.
J'aime l'homme que je suis.
Voilà. Bah, je pense que ouais, ça transparaissait bien. Même moi, j'ai l'impression que c'est ce qui m'a saisi derrière tes propos à chaque fois de... Ouais, d'accepter. Si
oui, mais
tu
vois,
derrière.
J'ai une calvitie, mais c'est comme ça. J'ai du ventre, mais c'est comme ça. Tu vois, je sens bien que je ne suis pas l'être parfait, mais je me sens exister vraiment.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Bah, tu veux un stylo?
Oui.
On écrit ça?
Allez.
Est-ce que c'est adressé à quelqu'un ou à une occasion en particulier où tu peux tomber dessus ou pas spécialement?
Non, c'est peut-être à l'homme que tu es, que j'ai envie de le dire. J'ai envie de dire l'homme que tu es. Regarde, n'attends pas 72 ans pour exister. Aime l'homme que tu es maintenant, aujourd'hui. C'est ça. Alors ce sera pour
ouais.
toi. J'aime l'homme que je suis.
Ouais.
Et je te souhaite de l'être dès à présent.
Trop bien. Il y a une vraie écriture d'ordonnance en plus. Eh ben merci Jacques.
Ce fut un plaisir. C'était imprévu. Je ne savais pas, moi, je ne savais pas du tout qu'on ferait ça.
Comme une bonne séance de bettine, alors.
Ouais, je ne pensais pas. Je pensais qu'on se retrouverait parce que je t'ai connu l'enfance. Je suis content de te voir. Je pensais au cinéaste, en fait, et que j'avais content de rencontrer. Eh bien, tu m'as permis de me rencontrer.
Trop bien.
Et ça, donc, j'ai une chance.
Non, mais c'est
grâce
clair,
à toi.
On s'est calé hier
ouais,
soir pour
ouais.
se voir, donc pareil, moi j'avais rien.
Voilà. La vie, c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être trop calculé. Si on est sincère avec soi et qu'on est là à cet instant même, vraiment, eh bien, ça peut ne mettre que de bien. Voilà. Merci.
Merci à toi. Et salut, c'est encore moi. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si vous voulez retrouver la photo de la carte postale, rendez-vous sur rglx.com/train de nuit et cliquez sur l'épisode correspondant. Sur cette page, vous trouverez aussi les notes de l'épisode où je liste les liens vers tout ce dont on a parlé dans l'épisode. Donc si vous pensez que vous avez peut-être raté une référence en écoutant, il y a de grandes chances qu'elle se trouve dans cette liste. rglx.com/train de nuit, tout attaché. Vous pourrez aussi vous abonner à la newsletter si vous voulez être au courant des prochains épisodes et de mes projets en tout genre. Et si l'envie vous prend de partager cet épisode avec une connaissance, j'apprécierais grandement. Et moi, je vous dis à la prochaine.